Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, la santé mentale sous main de justice, la folie dans la caméra de Raymond Depardon et Claudine Nougaret à l'occasion de la sortie en salle du film 12 jours, ce sera mercredi prochain. Ils sont rejoints à l'instant par le journaliste Patrick Coupchou. Bonjour. Vous avez publié au Seuil une enquête sur la psychiatrie française, Un monde de fous, c'était en 2006, préfacé par Jean Houry, salué par beaucoup de spécialistes. Un livre de référence sur cette question et notamment sur la place de l'humain dans ce monde de fous. Votre dernier ouvrage, Mon combat pour une psychiatrie humaine, poursuit la réflexion, note les quelques évolutions, entérine les changements qui ont pu intervenir et surtout ce qu'il reste encore à faire. Et c'est vaste. Cet ouvrage est paru chez Albin Michel en 2016. Avec 12 jours, votre film Raymond Depardon et Claudine Nougaret, vous racontez une séquence particulière dans la vie de ces patients hospitalisés sans consentement dans les hôpitaux psychiatriques. Avant 12 jours, ils doivent être présentés à un juge des libertés et de la détention selon la loi du 27 septembre 2013. Le juge va alors décider de prolonger ou non leur hospitalisation. Bande annonce.
Donc moi je suis la juge des libertés et de la détention et je suis chargée aujourd'hui de vérifier la procédure vous concernant.
Procédure s'est passée au tribunal, je n'ai jamais passé au tribunal.
Non, vous ne passez pas au tribunal, non, mais ici, vous faites l'objet d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte.
Ici?
Ça s'appelle comme ça. Autour de moi, il y avait 12 personnes, 12.
Il faut de nombreuses personnes pour imposer la contention à quelqu'un.
12 personnes autour de moi pour m'attacher. En 2 minutes, j'avais plus de montre, plus rien. Ça, c'était très violent.
Mais le docteur ne peut pas faire tout. Il y a moi aussi.
Certes.
Il y a moi, il y a mon ordre aussi. C'est moi qui dois obéir.
Je ne suis pas sûre que la loi me demande de décider si vous pouvez vous suicider ou pas, parce que ce n'est pas mon rôle. Hein.
Donc je vous dirais bien que dans mon parti politique, moi, je vais supprimer les psychiatres.
Je suis fou, j'ai la folie d'un être humain.
Le temps de l'audience, Raymond Depardon, ce sont ces entretiens de légalité, cette confrontation parfois atone entre le patient et le juge, 4 juges des libertés et de la détention dans ce film, 10 patients interrogés. Vous avez tourné plus de 75 audiences, vous en avez retenu simplement une partie pour composer ce film d'1h30, 12 jours donc, qui sort en salle mercredi. Cette confrontation ou cette rencontre, comment vous qualifieriez ce moment? Ce moment qui se joue, qui se passe entre le patient et le juge.
Ben c'est vrai que c'est la loi de 2013 qui a fait que, d'un seul coup, il y a une audience foraine. Bon, bien sûr, c'est-à-dire que le tribunal se déplace à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique. Il a été convenu 12 jours. Je crois que il y avait certains qui voulaient 10 jours, d'autres qui voulaient 15 jours. Donc les 12 jours étaient compromis.
Et puis rebelote au bout de 6 mois.
Hein, si voilà. Alors. C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit ces gens, d'abord, en tant que cinéaste, moi, en comme d'image, on n'avait pas l'opportunité de les voir, jamais. Ils disparaissaient, ils sont quand même assez nombreux, les hospitalisés sans consentement sont 92 000 en 2015. Ils rencontrent un avocat et ils rencontrent ce juge, le juge des libertés, qui c'est nouveau, puisque ça n'existe pas. Donc il y a tout ça est un peu nouveau. Alors, pour l'instant, il me semble que c'est important, parce que et la question qu'on s'est posée d'abord avec Claudine, c'est comment filmer tout ça, comment ne pas gêner, ne pas déranger. Nous ne sommes pas psychiatres, mais nous ne sommes pas non plus juges. Donc moi, je me mets dans une position citoyenne, de faire un film citoyen, parce qu'au fond, ça nous concerne, puisque ça concerne toute la société. La maladie mentale, enfin, touche beaucoup de gens, et de toutes les couches, et de toutes les régions. Donc voilà, c'était de mieux les filmer possible, et de bien les écouter. On a tourné 72 personnes et on n'en a gardé que 10 qui s'équilibrent. Ce qui est incroyable, c'est qu'en faisant ce film en marge un peu peut-être de la société, au fond, on fait un portrait et une photographie de la France extrêmement contemporaine, de ce qu'on vient d'expliquer, de ce qui se passe en ce moment en France. C'est-à-dire voilà, des gens qui ont des burn-out, qui ont des dépressions au travail parce qu'il y a trop de travail, des violences quotidiennes dans la rue, des violences plus graves, bien sûr, des gens qui veulent se suicider, et des gens qui sont violés, et des gens qui sont, bien sûr, qui veulent reprendre leur enfant, qui ont un appel, et un Angolais aussi qui veut travailler. Donc tout ça fait une photographie d'aujourd'hui extrêmement contemporaine, incroyablement précise, avec des gens dont on peut... moi, je suis pas psychiatre, donc j'ai pas... Moi, la seule chose que je peux faire, c'est bien les filmer, et avec Claudine, bien les enregistrer, et bien les monter dans leur continuité, et de faire un film ouvert sur le public. C'est pas un film pour seulement une catégorie.
Ce qui est nouveau, c'est que c'est... Claudine Nogaret. Pour une fois... La psychiatrie est vue et racontée par les malades, par les patients. C'est pas un psychiatre qui vient expliquer, théoriser, ou même les magistrats. C'est la parole des patients qui est mise en avant, et c'est eux qui racontent ce qui se passe. Ça, c'est nouveau, je pense.
Combien de temps dure chaque audience, environ? Parce que là, dans votre film, on dirait peut-être une dizaine de minutes.
Oui, c'est ça, 10-15 minutes, ça va assez vite, bien sûr. Et c'est vrai que ça dépend un petit peu du cas, bien sûr. C'est vrai que le juge se tient, n'intervient pas dans le jugement des psychiatres, enfin dans le compte rendu des.
En fait, le juge n'est pas là pour apprécier l'état psychique des personnes qui lui sont présentées. Voilà. Il est là pour juger de la conformité, de la légalité voilà. De la procédure, et aussi pour décider en fonction de l'avis des médecins du prolongement ou pas de cette hospitalisation. Et on va se rendre compte que dans les 10 cas, en tout cas, que vous avez sélectionnés, à chaque fois, le prolongement de l'hospitalisation a été décidé par le juge. Alors que la plupart des patients qui sont présents dans cette audience, ce tête-à-tête avec le juge, demandent à sortir. Mais, oui. Mais le juge prendra plutôt la position ou suivra le conseil des psys.
Oui. Oui, il y a très peu de mains levées. C'est vrai qu'en France, paraît-il, il y a 8 à 9% de mains levées. Là, il se trouve qu'on a tourné au Vinatier, il n'y en a que 2%. C'est vraiment des vices de forme. Mais c'est déjà bien. Mais il y a aussi l'avocat, quand même. Bon, tout ça avait effectivement... Et puis, il y a eu comme ça des abus un peu. Il y a eu on a commencé à statuer depuis 2013 sur les abus dans certains hôpitaux psychiatriques, sur les chambres d'isolement, qui étaient, il semblerait, un tout petit peu un point faible. Donc tout ça, je crois que ça s'est un peu entre les psychiatres et les juges, il y a un dialogue.
Il y a quand même 30% des hôpitaux qui ne sont pas équipés de salles d'audience. C'est pas généralisé complètement. Ouais. On est devant un phénomène, une application toute récente. Et moi, cette histoire de main levée, le problème, c'est de sortir malade ou on sort pas guéri. C'est pas si simple que ça. C'est pas comme en correctionnel, coupable, non coupable.
Alors, est-ce que les hôpitaux psychiatriques guérissent encore, apportent du soin? Ça, c'est plutôt le volet de votre réflexion, Patrick Coupchou. Mais d'abord, vous avez vu ce film. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'avez-vous vu avec votre regard de spécialiste que nous n'aurions peut-être pas détecté?
D'abord, je voudrais dire que le livre dont vous avez parlé, Mon combat pour une psychiatrie humaine...
Vous êtes co-auteur.
Je l'ai co-auteur avec le professeur de Lyon, je voulais le dire.
C'est bien.
Qu'est-ce que j'ai pensé du film? D'abord, je trouvais qu'effectivement, rendre visibles les invisibles, c'est toujours courageux, c'est toujours formidable, c'est toujours positif. C'est la première chose que j'ai ressentie, effectivement. Et la façon de les filmer montre que vous avez beaucoup de respect pour eux. Et ça, je pense que tout ça est très intéressant. La question que je me pose quand même, c'est comment ils seront vus? C'est-à-dire par le grand public. C'est le grand public qui est nourri, et je vais y venir, de nécessité, d'enfermement, de sécurité, etc., etc. C'est une question que je vous poserai peut-être tout à l'heure. Et je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est le reflet de notre monde, ce film. Effectivement, c'est le reflet de notre monde. À la fois pour ce que vous avez dit, à l'instant, et aussi en même temps parce qu'il montre de la façon dont on traite les problèmes dans ce monde. Parce que moi, par exemple, sur les audiences, je me suis dit, mais pour quelle raison est-ce qu'on fait ça? Alors on fait ça parce que le juge va être le responsable de l'enfermement. Donc c'est très démocratique. Mmh. En même temps, on s'aperçoit quand on regarde tout ça, que si on se met du point de vue du patient, les patients ont l'air très seuls face au juge. Ils ont l'air très seuls. Et il y a une espèce de d'impuissance, je trouve, qui se dégage. La seule chose qu'ils peuvent dire pour ceux qui veulent sortir, c'est-à-dire la majorité, c'est « je veux sortir, je veux retrouver mon enfant, je veux retrouver ma famille, etc. etc. » Donc il y a une certaine impuissance, avec même s'ils sont accompagnés par l'avocat.
Bien sûr.
Et l'avocat me semble, hors le fait qu'il est présent, ce qui est très important, mais il ne sert pas à grand-chose non plus. Le deuxième point, c'est sur le juge également, sur le juge. J'ai eu le sentiment que le juge était quand même dans une situation qui n'est pas facile. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont inutiles, mais il y a quand même un patient qui dit « mais à quoi vous servez ?» Enfin, je dis de mémoire, hein, je ne sais pas si c'est
bien
les termes exacts.
Oui, oui, c'est clair.
À quoi vous servez ? Et la juge a cette réflexion spontanée, je me le demande, ou un truc de genre. Hein. Parce que c'est vrai qu'on leur demande de prendre une décision, c'est-à-dire de maintenir l'enfermement ou de le lever, à partir d'un dossier, à la fois qui est préparé par d'autres, par les psychiatres, et sur lequel elle n'a pas les compétences, ou il n'a pas les compétences précises. Donc, je trouve que dans la façon dont elle, dans la relation avec le patient, on sent bien, par exemple, que quand le patient va un peu sur le terrain de sa vie, il ou elle n'est pas très à l'aise, elle ne sait pas trop quoi répondre, et elle lui sert, en début d'entretien, c'était un invraisemblable discours sur les procédures, etc. Et je pense que là, il y a quelque chose qui interroge. Et je me demande si le système, de ce point de vue-là, avec cette décision, n'est pas en train de se travestir. C'est-à-dire qu'en fait, les gros problèmes qui sont liés, ça je viendrai tout à l'heure à votre question, les grands problèmes de la psychiatrie ne sont pas abordés par le juge. Le juge sert à dire, ben, effectivement, c'est démocratique, et ça l'est, et je partage ce point de vue, mais en même temps, c'est vide de sens, c'est formel. Et je me demande s'il n'y a pas, de ce point de vue-là, du point de vue du système en général, une volonté d'emprise supplémentaire sur les patients.
C'est-à-dire de quoi est garant le juge, finalement, Claudine Nougaret, Raymond
Depardon ?
Est-ce que c'est une simple chambre d'enregistrement ?
La loi de 2013 prévoit que le juge doit rencontrer le patient. Ce qui n'est pas le cas dans certains pays. Parce qu'effectivement, la tentative, on la voit bien, comme en Espagne, c'est qu'un grand technicien voit le dossier, voir si effectivement il y a une vis de forme. Et puis, en fait, on le rencontre pas. Mais moi, je crois que c'est bien. Bon, c'est pas parce que ça m'a permis de faire ce film. Moi, je pense que c'est bien parce que j'ai vu quelque chose. Alors, c'est des petits détails. Effectivement, d'abord, il n'arrive pas en pyjama.
Parce qu'il énonce les conditions d'hospitalisation.
Dans de nombreux hôpitaux psychiatriques aujourd'hui, les gens sont en pyjama toute la journée pour les empêcher de sortir.
Oui. Voilà. Il arrive pas en pyjama. Il a cette place d'honneur, en fait. Alors, ça lui fait une belle jambe, mais enfin, quand même. Il a cette place, il s'assoit, et on l'écoute. Ça dure 10 minutes, c'est déjà. Mais je pense qu'il y aura une évolution. J'espère, en tous les cas.
Mais vous n'avez pas été marqué par l'espoir fou qu'on retrouve justement dans leur regard, c'est-à-dire on ne sait pas très bien si c'est une audience, un conseil pour eux, voire un procès pour certains qui ont le sentiment que se rejoue l'affaire et le sort que la justice va décider pour eux. Mais beaucoup arrivent vraiment avec l'espoir de rencontrer enfin un interlocuteur qui va les entendre, qui va comprendre aussi leur souhait de sortir de cet enfermement. Et cet espoir, il est quand même assez vite déçu et il s'éteint assez rapidement dans leur regard, se pose aussi du coup à travers ces regards et leurs paroles qui certes est formulée la question de la crédibilité, de la légitimité qu'on donne à ces personnes hospitalisées. Patrick Coupchaud.
Oui, moi je voulais juste un mot sur un deuxième point qui me semble fondamental et je pense que vous partagerez mon point de vue. Je trouve que le thème qui est en filigrane du film, c'est l'enfermement.
Bien sûr.
C'est la question de l'enfermement. C'est une vieille. Enfin, vous savez comme moi, Monsieur Depardon, que c'est pas une question nouvelle dans l'histoire de la psychiatrie et de la folie, que les désaliénistes, c'est-à-dire les psychiatres d'après-guerre, qui ont créé la psychiatrie de secteur, ont réagi essentiellement, avant tout, contre l'enfermement terrifiant qui était fait aux malades mentaux. Et je trouve que de votre film est très intéressant de ce point de vue, parce qu'il montre qu'on est toujours dans l'enfermement avec ces gens-là. Oui. On est toujours dans l'enfermement, pas simplement parce qu'on les prive de liberté, mais dans la démarche. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans le langage, ou dans les diagnostics, je mettrai des guillemets à diagnostic. Quand on dit à une personne, parce qu'on sait plus quoi lui dire, parce qu'on maîtrise pas le sujet, la juge qui dit ça à un moment donné, je cite de mémoire, mais monsieur, vous êtes schizophrène, paranoïde, et hétéro-agressif. Est-ce qu'on imagine, pour un patient qui est déjà dans une souffrance terrifiante, ce que signifie un tel verdict? Et j'emploie le terme de verdict à dessein. C'est le discours juridique du juge, parce qu'il n'en a pas d'autre, qui l'enferme. Et au bout du compte, on s'aperçoit que ça a comme conséquence, et je pense que ça se voit dans le film, et vous l'avez fait d'une façon remarquable, c'est que ça aboutit à deux choses. À un enfermement dans les mots et dans le langage, qui est parfois aussi terrifiant que l'enfermement réel, et ça conduit à une chosification de la personne. Et là, on est au cœur des questions qui agitent la psychiatrie aujourd'hui. C'est, est-ce qu'on s'adresse à des personnes ou est-ce qu'on s'adresse à des choses bourrées de symptômes qu'il faut éradiquer? Et je pense que tout ça, moi, au moins, ça m'a provoqué toutes ces
réflexions. Moi, j'espère que ce film va aider à donner des moyens à la psychiatrie, parce que le gros problème, c'est le manque de moyens des hôpitaux psychiatriques. Ça manque d'infirmiers.
De les faire sortir dans des centres ouverts.
Il n'y a personne pour leur faire des activités. Il y a un ennui. Il y a un vrai manque. Et encore, l'hôpital Le Vinatier est...
Est-ce que c'est simplement une question de moyens ou est-ce que c'est aussi une question de mentalité et de mots? Vous l'évoquez. Vous parlez encore, l'un et l'autre, Claudine Nougaret et vous, Raymond Depardon, de folie dans la bouche, à la fois des juges, mais ça, c'est peut-être plus normal, mais aussi des soignants, du corps médical. On préfère aujourd'hui le mot santé mentale. Mais pas forcément dans la bouche des patients. Hein. Quand on entend dire devant votre caméra « je ne suis pas fou », dit l'un d'eux, ou au contraire un autre qui dit « j'ai la folie d'un être humain et le mental d'un sous-doué », des mots qui sont absolument déchirants sur le regard qu'ils peuvent poser eux-mêmes sur leur raison d'être là, sur le pourquoi du comment. Il y a aussi, ces mots ont changé depuis un moment. Est-ce que c'est pour un mieux ou pas?
Non, ça on voit bien que d'ailleurs, parce que effectivement, devant Le Vinatier, c'est comme un hôpital général. Il y a une guérite, et puis la porte s'ouvre, et on rentre comme on veut. Mais en fait, c'est beaucoup plus malin maintenant, parce qu'il y a une clé électronique qui est donnée à chaque patient. Ils ont leur chambre, effectivement. Elle est programmable 24 heures par 24. Mais il y a quand même toujours les clés, c'est toujours fermé.
C'est toujours fermé. C'est des plages d'ouverture.
Donc c'est vrai que, on a repoussé un peu ce qu'on voulait pas voir, mais en fait, c'est un peu comme quand j'avais été faire mon premier film, San Clemente, dans la lagune de Venise, où on mettait les fous dans les petites lagunes, dans les petites îles au large de la cité. Donc, en fait, on reste toujours un peu, on veut pas les voir, on veut pas les entendre, et c'est toujours l'éternel problème.
Qui è un ospedale, è un reparto, ci sono ammalati, vergognatevi. Poi da qui, tu. Via, non c'è autorizzazione, non chiediamo autorizzazione, vieni, giro. Ma va, ok, ci sono ammalati, ma che siamo dire? Non ci vergogniamo, non sapete che sono ospedali, poi da qui.
De San Clemente dans un asile de fous, on pouvait dire comme ça à ce moment-là, en Italie, Raymond Depardon. Vous vouliez ajouter quelque chose sur la question des mots, Patrick Coupchou?
Oui, sur la question des mots et sur la question de ce que vous soulignez par rapport aux moyens. Évidemment, le manque de moyens est quelque chose de terrifiant aujourd'hui en psychiatrie, c'est quelque chose d'absolument terrifiant. C'est pas seulement une question de mentalité non plus, c'est une question de vision de la folie. C'est-à-dire que dès le moment où vous avez une vision qui est totalement scientiste, c'est-à-dire qui dit la folie c'est le résultat d'une maladie du système nerveux ou de la génétique, et que donc elle se traite avec des médicaments, eh bien vous évacuez la personne, et donc vous arrivez à des choses qui sont dans la logique des choses. Par exemple, parce que vous parliez, monsieur Depardon, de la situation aujourd'hui du Vinatier avec les clés électroniques, mais on a quand même eu l'affaire de Bourg-en-Bresse. Ouais. Où la contrôleur général des lieux de privation de liberté a tiré le signal d'alarme. Il y avait des choses, moi j'y suis allé à Bourg-en-Bresse justement, il y avait des choses terrifiantes où on attache les gens pendant des semaines et des mois, où on empêche les gens de circuler, etc. etc. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote qui va détendre un peu l'atmosphère. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Barbara Pompili, qui est une députée...
Oui,
vous avez
sûr,
vu ça
bien sûr.
Qui est une députée amiens, en marcheuse, je crois. Elle est marcheuse. Hein.
Oui, la République en marche.
Et qui découvre la psychiatrie en allant à l'hôpital d'Amiens. Elle revient bouleversée, elle dit c'est un problème de civilisation, etc. Mais le plus drôle, c'est qu'elle en parle au Premier ministre, que le Premier ministre dit d'une façon, semble-t-il, relativement tranquille. Mais je suis au courant, parce que la même chose chez moi au Havre.
Alors pour donc, citer donc quoi. Barbara Pompili, elle est revenue donc de cette visite à l'hôpital Pinel, spécialisé en questions de psychiatrie à Amiens, en disant c'est une question de dignité humaine, nous devons d'urgence arrêter de faire des économies sur la psychiatrie, une question essentielle de notre société, celle de pouvoir se regarder en face. C'est exactement ce que vous dites et ce que vous faites également dans ce film-là.
Oui, mais elle dit aussi, ce que j'ai vu à l'hôpital Pinel me remplit de honte. Vous l'évoquez, Patrick Coupechou, elle n'est pas la première à le dire. Aujourd'hui encore, on entend ces mots-là. Quelle est la difficulté à agir pour faire changer les choses?
Moi, je crois que...
C'est un changement de philosophie complètement qu'il faudrait avoir par rapport à cette question.
Il y a une chose que j'ai découverte il y a quelques années déjà en m'intéressant, si vous voulez, aux questions de la folie. C'est que la folie est la loupe qui nous permet de voir ce qui se passe dans la société. Et je pense que les questions de la folie sont des questions de la société. Les grandes questions, les questions de la liberté, les questions de la démocratie, etc. Je pense que c'est ça. Et je crois aussi que c'est les questions de la société en ce sens qu'on est dans une société d'exclusion. On est dans une société où c'est l'individu qui prime, où c'est par exemple en psychiatrie, on dit aux gens quand ils sont hospitalisés, on dit aux gens quel est votre projet de vie. Et on va lui demander d'avoir un projet de vie et de mener ça tout seul, ou même si on lui donne un coup de main, mais d'une façon individuelle. Donc je crois que il faut se battre sur les grandes choses. Par exemple, moi, je vous ai parlé de l'enfermement, parce que je demeure persuadé, malgré la situation difficile dans laquelle on se trouve, qu'il y a une alternative à l'enfermement, y compris pour ces malades que vous avez filmés, monsieur Depardon. Et je crois que là-dessus, il faut se battre sur l'idée qu'un fou, c'est un être humain comme tous les autres, si je puis dire. Ça aussi, c'est une question qui ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi du tout. Si on attache les gens pendant des mois, c'est qu'on les considère plus comme des humains. Donc il y a une vision de la folie à changer, comme il y a une vision d'individu peut-être à revoir.
Parce que la plupart sortent de chambres d'isolement ou de chambres d'apaisement. Ils sont tous, pour la grande majorité, ceux que vous avez rencontrés dans des unités de malades difficiles. Non, et c'est vrai que non, pas tous.
Non, il n'y en avait qu'un dans le film.
Qu'un seul.
Deux, oui.
Mais ils arrivent quand même voilà. Avec un regard souvent hagard. Et là se repose aussi la question de la chimie dans le traitement de la maladie mentale. Ils sont pas toujours lucides, un ou deux leçons dans les propos qu'ils tiennent. Mais ils ont cette opportunité de s'expliquer sans avoir pour autant les mots qui leur permettront d'influer sur la décision qui va être prise. C'est ça qui est quand même assez marquant. Et j'en reviens au poids de leurs paroles, à la crédibilité des mots qu'ils peuvent employer. Claudine Nougaret.
Je pense que les juges sont un peu démunis. Donc effectivement, certains ont une condescendance un peu agaçante et énervante. Mais c'est pas si simple que ça. Je crois que les soins avec enfermer les gens et la contention, soigner sous contention, sous enfermement, c'est pas simple non plus pour les psychiatres. Moi, je veux pas jeter la pierre à tout le monde. Le problème n'est pas uniquement de libérer les malades. C'est pas si simple que ça, je crois. Mais ce sont des gens qui sont en souffrance, effectivement, qui ont pris des médicaments. Et qui sont, moi, je pense que nous, on prendrait ces médicaments, on serait complètement endormis parce qu'ils ont une vraie pathologie. Mais ils sont hyper sensibles, hyper lucides. Et quand je leur demandais s'ils voulaient participer à ce film et en leur disant que on allait donner la parole aux malades, ils étaient tout à fait conscients de ce qui se passait. Et s'ils refusaient, on ne les filmait pas. Et ils me remerciaient d'accepter de pas les forcer à les filmer.
Raymond Depardon.
Oui, c'est ça qui est incroyable, c'est que on a fait beaucoup de débats en province, en région, avec le film, une trentaine, et la première question venait en disant mais ces personnes ne peuvent pas, ils ont pas les moyens de vous donner leur accord pour être filmés. Et alors, de seul coup, c'est ça, c'est qu'ils enferment les gens, ils les prennent pour des gens à part. Bon, je veux dire, aujourd'hui, je veux être filmé ou je veux pas être filmé, c'est à moi. Et en plus, c'est pas cessible, en plus. Alors, bien sûr, il y a des juges des tutelles, il y a des juges il y a des curatelles. Mais néanmoins, il faut considérer ces gens comme des êtres humains, comme le dit monsieur.
Des citoyens.
D'abord, ils votent, hein. Heureusement. Ils ont les droits civiques.
Et ils ont encore leur famille, leurs enfants, ils payent des impôts, ils sont en souffrance, c'est pas la même chose.
Voilà.
Oui, je voudrais rajouter un petit mot par rapport à ce que vous disiez, madame, à l'instant. C'est que, il y a une, on fait aujourd'hui comme si on redécouvrait les choses. Il y a une histoire dans la psychiatrie. Il y a une histoire négative, comme il y a une histoire très positive. Par exemple, ce qui s'est passé après la guerre et dans les décennies qui ont suivi avec la politique du secteur, avec la psychiatrie de secteur, avec la psychothérapie institutionnelle, eh bien, on a du savoir-faire, on a des choses qui sont établies. On sait, par exemple, faire face à un patient en crise. Au lieu de, il y a des endroits où cette psychiatrie-là est appliquée, où il n'y a pas de chambre d'isolement, où il n'y a pas de contention, où la contention est d'une façon tout à fait marginale. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on essaie de réinventer la poudre, mais la transmission ne s'est pas faite. Et il serait urgent de la faire. Parce que, par exemple, je parlais du livre avec Pierre de Lyon, c'est la vie d'un pédopsychiatre qui est spécialiste dans la psychothérapie institutionnelle, qui nous montre comment on travaille avec des malades mentaux sans les enfermer, sans les attacher, sans les contraintes, etc., etc. Je veux dire, les choses existent. Et elles n'existent pas d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est très important de se dire ça et de revenir un petit peu aux sources.
Alors c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir faire le tour de France avec le film avant qu'il sorte, puisqu'on l'a présenté. Et la parole s'est vraiment libérée dans la salle, donc du personnel soignant, des psychiatres, des magistrats. Et on sent que les gens s'emparent de ce débat. C'est déjà un pas.
De l'homme à l'homme vrai, le chemin passe par l'homme fou. Cette citation de Michel Foucault, vous la mettez en exergue de votre film. Cette citation qui questionne aussi notre rapport à la normalité et à la normalité. On dit qu'aujourd'hui, il y a plus d'un quart des 400 000 personnes qui sont hospitalisées en France chaque année dans un service de psychiatrie sous contrainte, qui le sont sur la demande d'un tiers ou de l'État pour être protégés d'eux-mêmes ou pour protéger le reste de la société des gestes de débordement qu'ils pourraient commettre. Sur cette question, est-ce que vous avez le sentiment, Raymond Depardon, Claudine Nougaret, Patrick Coupchou, que la société aujourd'hui est plus malade qu'elle ne l'était hier, la société française, puisque ce chiffre est en augmentation du nombre d'hospitalisations sous contrainte?
Je crois que ce chiffre qui est en augmentation, il est un peu la conséquence de ce que j'expliquais à l'instant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, les juges, qui, je crois que c'est 2% en vinatier de Malvais. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont aussi dans le risque. C'est-à-dire qu'ils vont pas prendre de risque. Ils vont pas prendre le risque de faire sortir un malade en disant peut-être qu'il va agresser quelqu'un, je vais être rendu responsable, etc. Je crois, je suis pas spécialiste pour dire si la société est plus malade ou moins malade qu'avant. Mais en tout cas, quand on regarde un petit peu la situation de la maladie mentale, on peut se dire qu'elle l'est quand même d'une façon assez profonde. Et elle l'est parce que c'est l'ensemble du fonctionnement social qui dysfonctionne.
J'avais une question pour vous, Claudine Nougaret et puis Raymond Depardon. Sur tous les films que vous avez tournés ensemble ou séparément, est-ce qu'il y en a qui concernent l'institution pénitentiaire? Est-ce que vous êtes allé jusqu'à, après avoir tourné autour de l'institution judiciaire et également traité la question de l'enfermement, on le voit avec les hôpitaux psychiatriques, est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé de faire qui n'est pas possible ou un regret ou quelque chose que vous voulez faire?
Oui, c'est vrai qu'on tourne un peu autour aussi, effectivement. Pour l'instant, la loi était impossible, enfin, on n'avait pas le droit de les filmer. Mais c'est un peu comme c'est la psychiatrie. Pourquoi j'avais été tourné en Italie, à Venise, à Saint-Clément, c'est que la loi m'interdisait. C'est vrai que là, il peut y avoir aussi, bon, à chaque fois, délit flagrant, dixième chambre. Je dois dire que je bénéficie d'une exception, parce que je crois que, bon, les autorités voient un petit peu la nécessité de faire des films et de continuer. Je pense que effectivement, ça m'a surpris.
On va y réfléchir.
Je crois qu'il y a des endroits aussi, un tout petit peu, des petites audiences foraines. Là, j'ai l'impression sur les gens dans les prisons, et que c'est vrai que. Si je dois faire le tour de mes angoisses sur l'enfermement, c'est vrai que c'est une grande angoisse et une grande question qu'il faudrait traiter aussi.
C'est presque le seul angle mort dans votre vision globale de la société française.
Ou de l'enfermement, en tout cas. Sur France 5, la semaine dernière, Raymond Depardon, dans l'émission politique, on vous a rappelé un extrait de l'un de vos précédents films. C'était Fait divers en 83, avec ce témoignage d'une jeune femme au commissariat qui porte plainte pour viol et qui se fait rembarqué par le policier qui ne l'écoute pas. Il lui dit d'aller presque s'excuser auprès de son violeur, de faire la paix parce qu'il a dû passer une mauvaise soirée. Vous avez réagi à ça en estimant que c'était une bonne chose aussi aujourd'hui, que la parole des femmes se libère, que ça va peut-être faire aussi évoluer des institutions comme la police d'un côté, peut-être la justice aussi de l'autre, en apprenant à donner plus de place aux paroles de ceux qu'ils entendent et à reconsidérer une partie de leur rôle. Pour terminer, vous pensez que dans 30 ans, on pourra peut-être vous ressortir un extrait de ce film, 12 jours, et espérer que les fous seront écoutés autrement?
Oui, c'est incroyable, parce que voilà un film que j'ai fait il y a 35 ans, personne n'avait rien dit, et d'un seul coup, on voit une séquence que, voilà, d'un commissaire et qui dit, ben non, vous allez sortir, etc. Donc tout le problème, effectivement, de ces gens, ces jeunes femmes qui veulent porter plainte et qui ont peur d'aller au commissariat, parce qu'il y a vraiment, on sent bien qu'il n'y a pas l'écoute nécessaire. Peut-être que j'espère qu'un jour l'écoute sera nécessaire, mais il y a d'autres problèmes aussi dans la vie de travail de tous les jours. Il y a des gens qui sont harcelés. Donc effectivement, et dans 10e chambre aussi, j'avais aussi un harcèlement. Donc c'est vrai que c'est incroyable comme quoi aujourd'hui, les mentalités changent, parce que voilà un film, d'un seul coup, les gens de France 5, les journalistes de France 5, de ces politiques disent « Mervin, c'est incroyable ». Et c'est vrai que le policier, de go, comme ça, sans aucune scrupule, me dit non, voilà, et je tourne cette séquence.
Donc on peut espérer sans doute aujourd'hui, oui, voilà. La situation et l'écoute changera aussi.
Ben oui, par exemple, ce Tangolais qui dit, moi, je veux travailler, je veux dire, voilà, c'est un migrant. Aujourd'hui, on est dans les migrants, voilà, bon, pourquoi pas. Oui, j'espère qu'il y aura, et puis d'autres thèmes, voilà, qui sortiront.
Bon, vous savez ce qui se passe quand il y a le générique de fin d'un film qui commence à être diffusé. On sait que c'est la fin du film. Et voilà, c'est la même chose pour la grande table, cette grande table du vendredi à laquelle vous avez participé tout au long, l'un et l'autre, Raymond Depardon et Claudine Nougaret, l'occasion de la sortie de votre film 12 jours. Et merci beaucoup à Patrick Coupchou qui nous a rejoint pour la deuxième partie de l'émission. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la grande table qui, tout au long de la semaine, a préparé cette émission. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce portrait sur le site de franceculture.fr à la page de la grande table. À la réalisation aujourd'hui, Père Le Gras avec Pascal Baudin. France Culture, il est 13h31. Tout de suite, c'est Les Pieds sur Terre avec Sonia Kronlund. Bonjour.